Bonjour à toutes et à tous. Fabien, du cinéma Le Bourguet, cinéma RSC de Fort-Calquier. Un nouveau programme est paru, j'espère que vous en avez pris connaissance. On vous en dit quelques mots avant de vous présenter la semaine, la première semaine de ce nouveau programme. Ce nouveau programme, le numéro 91, couvre la période du 14 février au 12 mars, c'est-à-dire aussi les prochaines vacances d'hiver. Eh bien, en ce début d'année, en tout cas en ce premier trimestre et même, oserais-je dire, en ce premier semestre 2024, il y a une surenchère de films incroyablement intéressants, d'une grande diversité. C'est vrai de manière générale, c'est particulièrement vrai, il y a un petit encart à ce sujet dans le programme du cinéma documentaire, que l'on découvre ici vraiment sous ses aspects les plus inventifs, sous des registres, des formats extrêmement différents, et c'est très très réjouissant. Et ce cinéma documentaire si riche et si foisonnant va faire l'objet d'une multitude de séances. On a beaucoup anticipé, en tout cas jusqu'au Festival de Cannes, pour les prochains programmes, puisque beaucoup d'invités vont venir présenter des films qui nous semblent formidablement intéressants. Je pense que vous en aurez la confirmation en venant à ces rendez-vous. Alors, sur ce programme composé de 4 semaines, il y a 9 films documentaires. Je pense que c'est un record en ce qui nous concerne, avec des films aussi différents que Jeunesse, dont on va vous parler tout à l'heure, de Wang Bing, La ferme des Bertrands, dont on va vous parler également, de Gilles Perret, mais aussi des Shots de Piano Player, dans 2 semaines, Vivre avec les loups, qui fait la couverture de ce programme de Jean-Michel Bertrand, qui sera présent le 24 février pour vous en parler. Je pense que ce sera une très belle rencontre avec lui, qui viendra de son champsaur voisin. Et puis un film qui est un vrai coup de cœur et qui promet un échange sans doute drôle et passionnant avec son réalisateur Uri Milstein, qu'on a invité à venir le présenter le 9 mars. Sachant que de la rétrospective entamée le 25 janvier avec Pascal Privé, numéro 0, l'association Œil Zélé autour des cinéastes du Grand Nord que sont Anastasia Lapsui et Marcou Lemouscalio, et bien 2 autres films de ce couple réjouissant, étonnant de cinéastes vous seront présentés le 29 février avec Pascal, Le Voyage Perpétuel, 11 images de l'homme. Sachez que toutes ces séances spéciales, dès lors que le programme paraît, vous pouvez préacheter vos places et on vous le recommande chaudement. Pas de réservation par téléphone ni même par mail. Vous passez au cinéma aux heures d'ouverture, vous vous fiez au programme et aux horaires des séances et vous pouvez passer, acheter vos places avec votre carte d'abonnement. Alors pour les cinéastes du Grand Nord, la carte d'abonnement exceptionnellement ne marchera pas parce que ce ne sont pas ce qu'on appelle des séances commerciales, parce que ce sont des films que vous avez beaucoup de chance en fait de voir en France actuellement. C'est-à-dire des films qu'on fait venir de Finlande et qui n'ont pas un visa de sortie en France, donc c'est des séances exceptionnelles. Et la carte d'abonnement, je l'explique une fois pour toutes, cette carte d'abonnement en fait elle est liée aux séances commerciales et au visa du CNC et aux films enregistrés par le CNC. Mais sur présentation de la carte d'abonnement, vous bénéficierez du même tarif à 6,50€. C'était une petite introduction, pour vous dire un mot, de ces 4 semaines de programmation qui sont tissées de fils rouges comme on les aime. Vous verrez que, par exemple, les animaux sont particulièrement présents sur les 4 semaines de ce programme. Vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de questionnements, de problématiques liées à l'identité, que ça soit la jeune enfant de 20 000 espèces d'abeilles ou 2 des films dont on va vous parler tout de suite, après vous avoir dit un mot cependant de ce premier film de la semaine du 14 au 20 février, Ces pauvres créatures, Ces Poor Things de Yorgos Lanthimos, film que vous êtes sans doute quelques-uns et unes à attendre impatiemment. Le film était présenté à Venise au mois de septembre, il y a obtenu le Lion d'Or. Il a depuis obtenu une poignée de Golden Globe aux États-Unis, et notamment le meilleur film musical ou comédie et celui de la meilleure actrice pour Emma Stone. Il faut dire qu'Emma Stone, qui en plus productrice ici, est vertigineuse dans son interprétation de la jeune Bella. Alors, un petit mot quand même, un petit rappel de Yorgos Lanthimos, cinéaste grec, qu'on découvre avec son troisième film, je crois, en 2009, qui s'appelle Canine. Film tourné en Grèce, comme le sera, je crois, le suivant Alps. Oui, avec notamment Ariane Labed, que sa compagne à la ville, comme on dit. Et puis, il débarque à Hollywood en 2015 et depuis a tourné tous ses films là-bas. The Lobster en 2015 donc, Mise à mort du cerf sacré en 2017, La Favorite, où l'on retrouve déjà Emma Stone, mais surtout Olivia Colman, qui aura l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle donc en 2018. Un nouveau film est annoncé pour cette année ou l'année prochaine, qui s'appelle Kind of Kindness, mais pour l'heure donc, Pauvre créature, qui est l'un des favoris des prochains Oscars avec 11 nominations, favori également des BAFTA, enfin vous voyez, film qui suscite beaucoup d'intérêt et à raison, moi qui ai pu être réservé, qu'il le demeure malgré tout encore à l'égard de ce cinéaste, je trouve quand même qu'il y a une prise de risque, une inventivité qui est proprement remarquable dans ce film-là en particulier, un goût de l'excès qui me semble cohérent et pertinent s'agissant de ce film-ci, qui est fantasque, fantastique, excessif, assurément baroque, probablement, et qui est une adaptation d'un roman paru en 1992. Ce roman s'appelle Poor Things, donc de Alasdair Gray, grand auteur écossais mort en 2019. Le scénario est signé Tony McNamara, qui est d'ailleurs nommé aux Oscars pour ce scénario adapté. Et on suit avec bonheur et émerveillement comme elle le personnage interprété par Emma Stone de Bella Baxter, qui est une sorte de créature de Frankenstein au féminin, et surfant un petit peu sur la vague féministe post-MeToo, mais très judicieusement, je trouve, et avec beaucoup de ruse et d'intelligence. Yorgos Lanthimos nous montre là l'émancipation, la libération d'un personnage féminin. Le film porte un regard aussi sur la condition féminine et tous les carcans que la société, que nos sociétés contemporaines infligent à l'individu, homme et femme. Et pour jouer donc ces personnages, Emma Stone évidemment est extraordinaire, mais à ses côtés on retrouve Willem Dafoe dans le rôle de Godwin Baxter, le docteur Frankenstein en quelque sorte. Un acteur que j'aime beaucoup, qui est bon dans chaque rôle, il est là également Mark Ruffalo qui joue l'avocat Duncan Wedderburn. On trouve aussi à leur côté dans des rôles secondaires, et c'est plus étonnant, Anna Chigoula, l'actrice égérie de Fassbinder dans les années 70, début 80, mais aussi des Français, Raphaël Thiry, que vous avez pu voir la semaine dernière dans L'Homme d'Argile, mais aussi notre cher Damien Bonnard, c'est-à-dire quand même deux acteurs révélés par Alain Guiraudy dans les dernières années. C'était dans Restez Vertical, ils étaient compères tous les deux dans Restez Vertical en 2016 ou 2017. Voilà donc pour ce film très intéressant, qui nous marque vraiment, qui est une aventure de spectateur enrichissante et que l'on vous recommande. Ce film donc s'appelle Poor Things, Pauvre créature. 5 séances sont prévues cette semaine, 2 séances en VF mercredi après-midi et samedi soir, les 3 autres en version originale vendredi à 18h30, lundi à 16h et mardi 20 février à 21h.
This is Bella.
Ba, ba.
Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
No!
I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress. Grow.
A woman plotting her course to freedom. And a nutful.
Sarah!
Oh.
Changement de registre et de continent avec un très beau film que nous avons découvert au Festival des Trois Continents à Nantes, c'était fin novembre, c'était d'ailleurs le film qui faisait l'ouverture du festival, et ça commençait bien, puisque ce film, donc, signé d'un réalisateur japonais dont c'est, je crois, le 4e long-métrage, mais c'est le premier seulement, c'est souvent le cas pour notamment les cinéastes asiatiques et les films asiatiques, film japonais, donc Kei Ishikawa, son 4e long-métrage qui s'avère très très intriguant, très mystérieux, qui est une enquête, ce film, puisqu'une femme, au début du film, on voit une femme rencontrer un homme très, très mystérieux, un lien se tisse rapidement entre eux, ils se marient, on avance dans le temps assez rapidement. Et puis, je ne dévoile pas grand-chose, l'enjeu n'est pas là. Cet homme, suite à un accident, donc décède. Et elle va découvrir, au moment des obsèques, que cet homme-là, qui était son mari depuis plusieurs années, n'était pas l'homme qu'il prétendait être et qu'elle croyait être. Dès lors, elle va mener une enquête, elle va surtout s'entourer d'un avocat. Et je dois dire que le casting de ce film est vraiment remarquable. Il y a un trio de têtes. Alors, il y a cette actrice merveilleuse qui s'appelle Sakura Ando, que vous avez vue récemment dans L'innocence de Koreeda Hirokazu, qui joue aussi dans Une affaire de famille, que vous reverrez sans doute dans une multitude de films. C'est une grande actrice, voilà, parmi la jeune génération des acteurs et des actrices japonaises. À ses côtés, Satoshi Tsumabuki, qui joue donc l'avocat Akira Kido, qui dégage, vous verrez, une aura elle-même assez mystérieuse, mais très, très charismatique, assez magnétique. Et le film va avancer de rebondissement en rebondissement, et il nous captive d'emblée parce que les acteurs sont bons, parce que les dialogues, le scénario est bon, et parce qu'il y a aussi des parties prises de mise en scène fort intéressantes qui parviennent comme ça à stimuler notre imaginaire et à nous intéresser de bout en bout à cette histoire assez rocambolesque, mais qui font écho quand même aussi beaucoup à des symptômes proprement japonais. Alors sans doute on y reconnaîtra tous des symptômes propres à nos sociétés européennes notamment. Mais il y a là quand même une dimension schizophrénique qui apparemment, pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai lu, appartient en propre quand même à la société japonaise, qu'on ne cesse de découvrir, faute, comme vous et moi peut-être, de la connaître très très bien, à travers le cinéma japonais, notamment le cinéma japonais contemporain, et au-delà des cinéastes, des quelques cinéastes japonais, auxquels s'est circonscrite notre connaissance du cinéma japonais, voire même du pays, pendant des décennies. Il faut dire que aujourd'hui, une multitude de films japonais, de cinéastes émergents, se font connaître en Europe. C'est le cas donc de ce jeune réalisateur, Kei Ishikawa, avec ce film que l'on vous recommande, A Man, un homme. Il est programmé pour 5 séances, évidemment en version originale.
こういうところありがとうございます。大輔、私のことも悪く言ってたでしょ。置いてやらないんですね。はい。いえ、大輔じゃないですけど。じゃあ、この人、誰なんですか?誰なんですか?DNAカンペの結果、Xさんは谷口大輔ではないことが確定しました。寂しいね。じゃあ、誰だったの?昔のことはあんまり話しませんでした。
本物の谷口大輔さんですか?殺されてるんじゃないですか?この時は、付き合ってました。急にいなくなったんです。俺が前に担当した事件で、何すましがあったんや。それいつの事件?2013年。今は大阪刑務所に入ってるのか。谷口大輔さんという方、ご存知ないですか?過去を洗い流したい人はいっぱいいるんです。
その絵、なんかの手がかりになりますかね。実逃避かな。とは、犯罪に関わってるんでしょうか。先生は何も分かってないんじゃないんですか、結局。自分の人生は自分だけのものですから。
Je disais que le trouble de l'identité était une des problématiques, un des fils rouges de ce programme à travers quelques films. C'était le cas évidemment de A Man, et c'est le cas ô combien, mais sur un autre registre, de Dali. Alors je ne vais pas le faire avec l'accent espagnol de Dali, mais d'autres acteurs dans le film de Quentin Dupieux y parviennent très très bien, puisque Dali est un film réjouissant, comme le sont bien souvent les films de Quentin Dupieux, qui, vous le savez, extrêmement créatif, au moins ou presque autant que Hong Sang-soo, le cinéaste coréen, nous montre, produit, réalise 2 à 3 films par an. On sort à peine du réjouissant Yannick qu'on vous a montré à la fin de l'été, et qui vaut d'ailleurs au prochain César quelques nominations, notamment à Raphaël Quenard, que l'on retrouve ici quelques-uns et actrices des comédiens aimés et fidèles du cinéma de Quentin Dupieux, dans ce Dali, Anaïs de Moustier notamment, Didier Flamand, Romain Duris, mais surtout dans le rôle de Dali, qui est démultiplié à travers plusieurs visages, plusieurs corps, puisque l'interprète tour à tour Édouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Pio Marmaille. Ce portrait diffracté de l'artiste rappelle beaucoup, et c'est sans doute une référence pour Quentin Dupieux, le film de Todd Haynes, il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait I'm Not Here, qui portait sur Bob Dylan, où beaucoup d'acteurs et d'actrices aussi, notamment Cate Blanchett, interprétaient Bob Dylan. Ici, c'est sur un registre un petit peu différent, avec infiniment d'humour. Il faut bien dire qu'Edouard Baer et Jonathan Cohen sont excellents dans ce registre-là. Évidemment, la personnalité de Dali, qui lui-même était le comédien et le metteur en scène de son propre personnage, échappe, mais d'où la liberté extrêmement ludique que prend Quentin Dupieux et l'amusement qu'il en tire et qu'il nous communique à nous montrer Dali à travers ce film dans le film d'une jeune journaliste française interprétée par Anaïs de Moustier qui cherche à réaliser un entretien avec Dali. Ce film, comme tous les films de Dupieux, est court et il faut bien insister là-dessus. Il a l'intelligence de ses scénarios, ses films à Quentin Dupieux, par leur durée notamment, puisque ce qui tient autour et la cohérence qui se dégage et la pertinence qui se dégage des films de Quentin Dupieux, qui souvent tourne autour d'une idée qu'il va exploiter un peu dans tous les sens, dans le bon sens du terme, eh bien, bien souvent, ça dépasse à peine plus d'une heure. Et c'est le cas ici avec ce film qui dure une heure et quart, je crois, 1h19 peut-être. Voilà, donc pour ce film qui s'appelle Dali, film de Quentin Dupieux programmé pour 5 séances.
Maître, on peut faire une pause un peu là ? Putain, quel enfer!
Mais ça va pas, la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est?
Dali est probablement...
On est là!
...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. C'est moi? Un plus vieux.
Un vieux, vous ?
Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante.
Alors voilà, ça commence en enfer.
En enfer. C'est inadmissible. Pablo !
Voilà ! Monsieur Dali, s'il vous plaît.
Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Dali.
On vous disait tout à l'heure la riche actualité du cinéma documentaire. Alors, je ne suis jamais très attaché à distinguer fiction et documentaire, mais il y a, comment dire, une certaine convention qui est assez commode et confortable, notamment pour parler des films que l'on programme, à opérer cette distinction. Vous aurez remarqué que sur le programme du Bourguet, il n'est jamais spécifié si un film est un documentaire ou un film de fiction. Vous le devinez soit parce que vous avez entendu parler du film par ailleurs, soit peut-être simplement par l'absence de mention des comédiens et des comédiennes. Mais ces films-là dont on vous parle cette semaine en particulier, puisqu'il y en a deux, ô combien différents, nous montrent des personnages et des situations humaines très très riches et très stimulantes aussi, par les partis pris, par le regard qui est porté par le réalisateur sur elle et sur eux. On commence avec La ferme des Bertrands, que je pense auquel vous allez faire un succès à Fort-Calquier, comme il est un succès à l'échelle nationale. Il faut dire qu'il tombe à pic en pleine crise agricole, et alors que l'on pointe et que l'on se ravive toujours cette situation tragique que vivent les agriculteurs, mais ô combien complexe et ambiguë par le rôle évidemment que joue la FNSEA face aux enjeux écologiques. Et ce film est idéal pour porter là aussi un regard, un certain angle de vue sur l'évolution de la situation des agriculteurs et de la crise agricole qui date de plusieurs décennies. Sur 50 années, entre 1972 et 2022, ce film, il est signé Gilles Perret, C'est un nom que vous connaissez bien, je pense, aujourd'hui, Gilles Perret. Alors, il se trouve que ce film vient, même si c'est loin d'être son dernier film, et c'est un réalisateur lui aussi prolifique, qui fait quasiment un film par an. Mais c'est un cinéaste qu'on a découvert il y a une quinzaine d'années avec un film qui s'appelait Walter, retour en résistance. C'est un cinéaste, comme on dit, engagé, qui a tourné ensuite Les Jours Heureux, autour du Conseil National de la Résistance, La Sociale, autour d'Ambroise Croizat et de l'invention après-guerre de la sécurité sociale. C'est lui qui a fait L'Insoumis, qui a réalisé deux films aussi avec François Ruffin, Je veux du soleil et Debout les femmes, qui a tourné aussi ce film en 2022 qui s'appelle Reprise en main. Voilà, on voit bien la fibre engagée qui est celle du cinéma de Gilles Perret. Elle le reste particulièrement pertinente sur ce film-là, La ferme des Bertrands, où il filme simplement la ferme qui est située à côté de chez lui dans ce hameau de Quincy en Haute-Savoie, où il vit, où il a grandi, où vivait par ailleurs, c'était l'un de ses voisins, cet immense écrivain décédé il y a 3-4 ans qui s'appelait John Berger. Et cette ferme des Bertrands, Bertrand c'est le nom de la famille, qui habite et qui travaille dans cette ferme depuis des décennies, cette ferme des Bertrands, il l'avait filmée en 1997. Mais il n'était pas le premier à filmer les Bertrands, puisqu'en 1972, Marcel Trillat avait réalisé déjà un documentaire, un reportage sur les trois frères qui travaillaient dans cette exploitation agricole. Et entre les images que Gilles Perret nous montre de 1972, les images que lui a filmées en 1997 pour son tout premier film qui s'appelait « Trois frères pour une vie », et celles qu'il tourne en 2022, où Hélène, qui avait pris avec son mari décédé depuis la tête de l'exploitation en 1997, eh bien, c'est toute une histoire de cette ferme, de ces hommes, femmes, enfants qui s'y sont investis, engagés eux aussi, et qui font face chaque année à des difficultés croissantes, à un quotidien difficile, et qui se maintiennent en dépit de tout, mais qui ont souci, évidemment, de transmettre dans des conditions toujours plus difficiles et avec un avenir toujours plus compromis. Tout cela avec le regard profondément humaniste qu'est le sien, avec la richesse aussi des archives sur lesquelles il se base, et avec l'amour simplement que Gilles Perret a pour ces hommes et ces femmes qui sont ses voisins et ses voisines, et avec le goût aussi qu'il a de montrer le travail qui est le leur, la vie qui est la leur depuis si longtemps. Eh bien, c'est un beau film qu'il réalise Gilles Perret, qu'il est important de découvrir et qu'on vous invite à découvrir pour 4 séances. Alors, à des horaires, je pense, excellents, et vous trouverez, je pense, le vôtre entre le dimanche soir, le samedi après-midi, le dimanche après-midi et le lundi 14h. 4 horaires, 4 jours. 4 horaires différents à chaque fois, notamment le samedi à 18h30 et le dimanche à 16h30. Je vous invite à regarder la grille horaire, mais ne manquez pas ce film donc de Gilles Perret qui s'appelle La ferme des Bertrands.
On est dans un petit village de Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
Et votre vie, c'est le travail tout le temps?
Ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie.
C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève.
On va déjà essayer de digérer cette reprise, parce que ça te prend tes morceaux.
Et puis on y fait aussi parce que ça nous plaît, je pense.
Ouais, c'est la première des choses, c'est ça.
Hein. On prend toujours des conseils à gauche, à droite. On discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi.
C'est des tout bons. Bon, il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. Hein. On peut pas tout y avoir.
Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre.
C'est vrai qu'on est là pour un petit moment. Après, ça sera des autres générations. On n'est pas là pour y abîmer. Hein. Ça se vient le bout, hein.
On est bien, là.
Dernier, cinquième et dernier film de cette semaine. Un film qui était montré à Cannes l'an passé. Un film d'un réalisateur dont le nom peut-être ne vous dit rien, et encore, quoique. C'est l'un des grands cinéastes contemporains, son nom c'est Wong Bing. C'est lui qui avait réalisé il y a une vingtaine d'années un des chefs-d'œuvre, un des très grands films, fiction, documentaire, mêlé. Ce film-là s'appelle « À l'ouest des rails », c'est un film qui durait plus de 9 heures, qui avait été diffusé en 4 parties. Il était seul ou quasiment pendant 2 ans pour tourner dans un immense complexe industriel du nord-est de la Chine, à l'ouest des rails, donc c'était en 2003. Puis depuis, les films se sont enchaînés. Pascal Privet avait notamment montré Feng Ming, chronique d'une femme chinoise en 2007. L'homme sans nom est un grand film aussi, réalisé en 2009. Les trois sœurs de Yunnan, un très beau film en 2012, ont suivi à la folie Taang, qu'on vous a montré, qui avait fait la couverture du programme, et dont une photo d'ailleurs traîne au niveau de la caisse, toujours au cinéma de Fort Calquier. Mrs. Fang, qui a eu le Léopard d'or à Locarno en 2017, Les âmes mortes. Et puis Jeunesse, qui est aujourd'hui le premier volet d'une trilogie qui porte sur ces jeunes gens, hommes, femmes. Ils ont 20 ans, ils débarquent de leur campagne. Vous savez qu'il y a un exode rural massif depuis 10-15 ans, particulièrement en Chine. Et ces jeunes gens arrivent pour travailler dans l'industrie textile, dans un des 18 000 ateliers textiles qui se trouvent dans cette ville de Zili. Évidemment, je prononce très très mal, j'en suis navré. Ce film s'inscrit dans la foulée d'un film de 2016 qui s'appelait Argent amer, mais là se déploie donc sur trois volets. Ce premier, donc Jeunesse, sous-titré Le Printemps, nous montre ces jeunes personnages dans ces ateliers, et ce qui est beau, en dépit de l'atrocité ou des difficultés immenses qui sont celles quand même d'un esclavage proprement moderne auprès de ces jeunes hommes et femmes qui voient à peine le jour, qui travaillent au fin fond de ces ateliers. C'est la jeunesse, la fraîcheur, la drôlerie, les blagues, les jeux, les histoires d'amour, d'amitié qui se font, se défont, les bavardages. Il y a quelque chose qui nous porte, malgré la durée du film, hein, le film fait plus de 3 heures. Il est très beau de se laisser porter dans une sorte d'épopée à huis clos au sein de ces ateliers textiles du nord de la Chine. Ce film-là, avec la sensibilité, ce regard si singulier qui sont ceux de Wang Bing, on vous le montre pour 2 séances cette semaine. Le film fait 3h30, d'où la difficulté, comme les films de Wiseman, à les caler dans la programmation. Il y a jeudi 15 février à 17h et mardi 20 février à 14h30. Si vous pouvez vous libérer ce jeudi ou ce mardi pour voir Jeunesse de Wang Bing, ça sera une véritable expérience que vous ferez dans la salle du Bourget cette semaine. Voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec 5 autres films et des beaux, et notamment la rencontre avec Jean-Michel Bertrand le 24 février à 18h, pour laquelle vous pouvez déjà préacheter vos places. Assurément, la séance sera pleine comme le 29 février. Ne tardez pas à acheter vos places pour ces 2 soirées. À la semaine prochaine.